invités qui sont désormais des habitués des studios de Radio Pluriel à l'occasion d'un événement qu'ils organisent sur le territoire de la commune de Saint-Priest, qui est notre commune d'implantation, à l'espace Mosaïque. Il s'agit du parti Lutte Ouvrière, représenté en l'occurrence par Nadia et Cyril.
Oui, bonjour. Bonjour.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, et vous êtes assez nombreux, bien organisés pour déléguer quelqu'un qui vient de nous parler de cet événement. Mais bien sûr, l'événement, c'est le prétexte, c'est d'ailleurs la vocation de la fête de Lutte Ouvrière, de parler politique.
Eh bien, évidemment, oui, c'est notre fête, là, donc ce week-end, à l'espace Mosaïque. Donc le 23-24 septembre, il y a plein de choses culturelles, on peut venir s'amuser, mais évidemment, nous, on tient à discuter de l'actualité. Il y a Nathalie Arthaud qui vient le dimanche, il y a des débats, il y a des discussions pour parler de tout, des problèmes qui touchent le monde du travail.
Et cette année, l'actualité politique est particulièrement riche, parce que depuis votre dernier passage chez nous, il y a eu beaucoup de changements au niveau national, des surprises, et pour certaines catégories de concitoyens, c'est peut-être pas des changements dans le bon sens.
Oui, effectivement. Là, bon, Macron est président depuis 4 mois. Là, c'est clair. Dès le départ, il est clair avec tout le monde. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui représente les bourgeois dans un gouvernement bourgeois. Et là, il mène une guerre. Une guerre. Faut pas avoir peur des mots. C'est ça qu'il faut dire. Une guerre contre le monde du travail, avec la démolition du Code du travail et ses ordonnances. Donc là, il y a eu une manifestation le 12 septembre. Honnêtement, elle est réussie. C'est un petit succès quand même. Donc je pense que il y avait tous les secteurs d'activité, secteur public, secteur privé, les hôpitaux, etc. Et là, c'est vraiment une réponse. Là, ils pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste. Et là, les gens, enfin, les travailleurs sont sentis attaqués et ils ont répondu mais. C'est pas une manif qui va changer la vie des gens. C'est pas une journée. Là, on en annonce une autre demain. Et là, moi, je m'adresse à tous les travailleurs, secteur public, secteur privé, qu'il faut être massivement nombreux demain. C'est très important. C'est une guerre. C'est une guerre que les capitalistes n'ayant pas peur des mots, les patrons nous déclarent. La démolition du code du travail, c'est un retour en arrière. C'est la permission de licencier à tout va. C'est la précarisation qui va s'accentuer. C'est la fin des CDI. Et là, on est tous touchés. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à tous les travailleurs qui nous écoutent. J'espère qu'ils sont nombreux. Qu'il faut être massivement dans la rue demain. Parce que sinon, si on laisse faire aujourd'hui, et eux, ils vont rien lâcher. En face, il n'y a pas de rapport de force. Si ça répond pas en face, eux, ils vont continuer. Et puis aujourd'hui, c'est demain, c'est le code du travail. Demain, ça sera autre chose. Et pourquoi? Et pourquoi pas moi qui travaille à l'hôpital public? Pourquoi pas revenir sur le statut de la fonction publique? Ça, ils peuvent y revenir. D'ailleurs, il n'a pas hésité. Il y a le gel des salaires en 2018. Il y a la CG qui va augmenter. Et il annonce quand même 120 000 postes supprimés dans la fonction publique. C'est ça aussi, et c'est pour ça que j'essaye à travers vous, et votre invitation, de dire aux gens, aux travailleurs, pas les gens. Nous, c'est pas les gens, on s'adresse aux travailleurs. Les gens, c'est Mélenchon qui s'adresse à lui. Nous, c'est les travailleurs, qui soient massivement demain. Mais une journée, ça suffira pas. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'on peut changer notre sort, parce que c'est la société, sans les travailleurs, elle est rien. Qui vide les poubelles? C'est pas les CRS, c'est les travailleurs. Qui construit les immeubles? C'est les travailleurs. Qui fabrique les trains, les TGV, etc. Les voitures, c'est les travailleurs. C'est pas les actionnaires, c'est pas les PDG, c'est les travailleurs. Sans cette classe sociale, il y a rien qui fonctionne. Donc on a un point économique et social à mettre sur la table. Et ça commence demain, mais ça s'arrêtera pas là. Il faut vraiment qu'il y ait des journées à venir.
Vous tenez pas compte de l'argumentation de ceux qui soutiennent ce projet de loi qui est la deuxième phase de la loi El Khomri, c'est libérer le travail. Le raisonnement consiste à dire si on donne plus de souplesse au code du travail, les patrons pourront dégraisser leurs effectifs en période de vache maigre et en cas de reprise, ils vont embaucher massivement. Donc, c'est le monde du travail dans son ensemble qui sera gagnant. Que pensez-vous de cette théorie?
Cette théorie, elle l'amène nulle part. On voit bien, de toute façon, les patrons, ils n'ont pas attendu les ordonnances et la démission du Code du travail pour faire ce qu'ils veulent. Quand ils ont envie de licencier, et même quand ils font des bénéfices, ils le font déjà. Notamment, moi, j'aimerais revenir quand même sur Aulnay en 2013. Ils ont fait croire à tous les travailleurs et aux syndicats qu'elle était déficitaire, et en fait c'est à l'heure. Voilà, et donc en fait ils étaient bénéficiaires et ça n'a pas empêché. Bon, ils ont quand même. Les travailleurs de Peugeot ont mené quand même 4 mois de grève face à la famille. La famille Peugeot, c'est pas rien. Et s'ils avaient pas, s'ils n'étaient pas mobilisés, ben ils auraient, ils seraient pas partis avec des sommes importantes. Donc c'est pas vrai. Donc c'est plutôt la casse du travail. C'est plutôt la démolition. Ça empêchera pas les licenciements, honnêtement, sincèrement. Au contraire, ça va aggraver la précarisation, ça va aggraver les licenciements. Et ça, quand une par contre, on est, alors, faut bien que je vous explique. On est dans un système capitaliste. C'est la rentabilité qui compte. On est d'accord. Eux, ils fonctionnent comme ça, les patrons. Les bourgeois fonctionnent comme ça. Les actionnaires, ils fonctionnent comme ça. Dès qu'il y a un atelier ou autre qui fait pas de, qui rapporte pas, qui est pas rentable, ils la ferment pour faire plaisir aux actionnaires. Donc voilà. Donc déjà, ils ont une certaine liberté à le faire. Ils le font déjà. Et d'ailleurs, Macron, hein, il est pas. Enfin, non seulement il est pas nouveau. Hein, il était quand même dans le gouvernement Hollande avec sa loi Macron, mais il y a eu Sarkozy avant et Hollande avant. Ils sont tous allés dans le même terrain. Donc voilà. Donc ça va vraiment pas libéraliser ou quoi que ce soit. C'est un leurre. Ça fait plaisir qu'aux actionnaires et aux patrons.
Alors quand on écoute le discours des tenants de cette réforme, on entend la chose suivante. Il y aura bien sûr plus de souplesse pour les employeurs qui voudront licencier, mais aussi c'est une loi, regardez-la de près, qui est protectrice, beaucoup plus protectrice pour les travailleurs. Donc pour les salariés, ils n'emploient pas le mot travailleur, mais les licenciements seront facilités, mais on donne plus de droits pour préserver les.
C'est
les,
bien. Oui, c'est
le
vrai
statut
que,
des salariés.
Ça, c'est l'argument que le gouvernement, que Macron et ses hommes nous répètent en permanence dans les médias, dans les journaux, etc. Mais en fait, quand ils nous parlent de flexi-sécurité, pour le moment, la sécurité, elle n'y est pas et elle n'y sera jamais. En réalité, c'est la précarité qui va être poussée encore plus loin, encore plus loin. Donc la flexibilité, ça, on va l'avoir. Le patronat, il va nous l'imposer. Ou en tout cas, il va essayer si on résiste pas. Sur ce qui est de la création des emplois, c'est pas du tout vrai. Et ça, c'est évidemment la propagande qui nous est faite. Mais il y a pas si longtemps, début septembre, il y avait Lang Saad, un des porte-parole du MEDEF, un des numéros 2 ou 3, un des bras droits de Gattaz. Il disait, mais non, nous, on s'engage à rien. Il y aura pas de contrepartie. Et y compris, il se félicitait qu'il n'y ait pas de contrepartie en disant, maintenant, c'est fini ce jeu. On nous fait des cadeaux, etc. Évidemment, lui non plus ne dit pas cadeau, mais et on devrait embaucher. Eh ben non, maintenant c'est plus comme ça. Et en fait, ça fait des décennies que en permanence on nous fait croire qu'on pourrait créer des emplois, eh ben en diminuant les cotisations, en faisant des cadeaux aux entreprises, en donnant des aides. Et ça, ils en ont énormément. Quand on entend le patronat qui râle parce qu'il aurait soi-disant trop de charges entre guillemets, en réalité, c'est complètement pipeau. C'est pipeau parce que jusqu'à 2,6 fois le SMIC, s'il se débrouille correctement, il ne paye plus de cotisations, par exemple, pour la sécurité sociale. Et est-ce que ces cadeaux ont créé des emplois? Pas du tout. Parce qu'en fait, au fond, pour avoir des emplois, il faut avoir l'activité économique. Le capitalisme, il a bout de souffle. Il a plus. On voit bien que tout, en particulier les grands groupes, ils n'investissent pas. Ils font de la finance, de la spéculation. S'ils n'investissent pas, si on ne crée pas des entreprises, si on ne fait pas de la recherche, si on ne développe pas des choses utiles, et vraiment des choses utiles pour l'humanité, si on ne construit pas des logements, si on ne fait pas tout ce qui serait nécessaire, il n'y aura pas de boulot. En fait, le problème de fond, c'est que cette économie, elle est profondément malade. Et que tant que le flux de richesse va dans la poche de quelques financiers, on ne s'en sortira pas. Et puis après, l'autre argument qu'ils donnent aussi, c'est celui des petites entreprises. Mais nous, on n'y croit pas un instant, parce que la plupart des petites entreprises, elles bossent pour des grosses. Et y compris, cette loi, elle va aider les grosses entreprises à faire suer plus le bourneau aux petites. Et les petits patrons, ils auront des arguments pour mettre la pression sur leurs propres salariés. Et à la fin, hop, ça remonte dans les tuyaux vers la finance.
Alors, la presse, en général, relaie ce discours officiel en laissant entendre que, et ça ne se discute pas, et qu'il faut réformer, comme si la réforme portait en elle une vertu incontestable. Qu'est-ce que vous pensez de cette réforme? La France est un pays qu'on ne peut pas réformer. Quelle valeur accordez-vous à la réforme? Comment L'interprétez-vous cette réforme auquel tient autant le gouvernement Macron et la presse officielle qui relaie la pensée unique?
Ben, c'est sûr que ça fait des décennies, pareil, qu'on nous assène le mot de réforme. La réforme, la réforme. Et en fait, ils ont y compris usurpé un mot, puisque ce mot, au départ, c'était, il y a belle lurette, il y a plus d'un siècle, l'idée de réforme sociale, c'est-à-dire d'avancer. Alors, aujourd'hui, quand ils nous disent réforme, en réalité, il faut le traduire par mauvais coup. Parce que derrière les mots, le patronat, le gouvernement, il a toujours des mots, derrière lesquels, en fait, il cache ses mauvais coups. Quand on nous dit la réforme de la fonction publique hospitalière, Nadia pourrait nous en parler, et ben en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de boulot pour les gens qui continuent à avoir, plus de précarité, plus de CDD, et au bout du compte, c'est pour faire quoi? Sous toutes ces réformes, quand on y regarde bien, et ben depuis 40, 50 ans, c'est celles qui permettent quand même à des grands groupes de continuer à faire des marges de plus en plus importantes malgré la crise. Donc en fait, derrière ce mot, nous, on n'est pas dupes du tout. C'est pas du tout ça. Et demain, s'il y a des choses sur lesquelles il faudrait réformer, ben, ce serait se battre pour augmenter les salaires, se battre pour que les salaires suivent les prix, se battre pour qu'on interdise les licenciements, qu'on répartisse le travail. Nous, si on voulait se battre pour des choses pour changer, ben, ça serait ça. Et ça voudrait dire affronter le gouvernement et affronter le patronat.
Ce gouvernement est arrivé dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron, celui qu'on n'attendait pas, qu'on a vu faire irruption sur la scène politique en très peu de temps. Et il a emporté une élection présidentielle en bénéficiant manifestement non pas d'un vote massif en taux de participation, mais d'un report de voix qui venait un peu de tous les chiquiers politiques, sauf l'extrême droite. Parce qu'il avait face à lui, l'épouvantail habituel, la candidate du Front National. Quelle a été, au moment du deuxième tour, la position officielle, s'il y en a eu une, de votre organisation?
Alors, effectivement, le deuxième tour, donc, en fait, on nous a fait le même coup en 2002. D'accord, il y avait à l'époque Chirac et Le Pen, déjà à l'époque. Ouh là là, attention, l'extrême droite arrive, etc. Et d'ailleurs, même les partis de gauche, notamment le PC et le PS, pour pas expliquer pourquoi à l'époque, même surtout le PS, avait perdu 4 millions de voix quand même à l'époque, parce qu'ils ont mené une politique en désaveu de la classe ouvrière. Ils étaient du côté du grand patronat, des capitalistes. Et donc là, hop, 12 ans après, 17 ans après, on nous fait le même coup. Franchement, il fallait qu'on choisisse entre la peste et le choléra. Alors, vous avez d'un côté Madame Le Pen, qui est un mouvement d'extrême droite, qui, on connaît bien son discours, hein, c'est l'immigration, c'est les assistés, etc. Et vous avez Macron, qui lui, offrait pas grand-chose. Lui, c'est la continuité de Hollande, hein, de toute façon, parce qu'il a participé à son gouvernement. Voilà, donc on nous fait croire qu'il fallait voter Macron plus que Le Pen. Mais en fait, le point commun entre eux, c'est des bourgeois, l'un et l'autre, faut pas oublier. C'est des bourgeois, ils sont pour la défense du capitalisme, notamment, je me rappelle, pour la loi El Khomri, quand même, Le Pen, elle qui se dit ouvriériste. Moi, je l'ai jamais vu dans les manifestations de la loi contre la loi El Khomri. Et quand les travailleurs se battaient pour préserver leur emploi, notamment Air France, ils étaient traités de voyous. Donc, on voit bien de quel côté elle est, cette dame. Elle n'est pas du tout du côté des travailleurs, et encore moins des travailleurs dits français, parce que là, elle utilise un langage qui trompe les travailleurs pauvres, qui rendent justement, elle leur fait croire que c'est la faute de l'immigration, que c'est les étrangers. En fait, non. En disant ça, elle condamne pas les capitalistes français qui sont aussi responsables de la situation du chômage, notamment dans le Nord. Ils ont fermé les mines, etc., parce que c'était pas rentable. Et ça, elle le dit pas, ça. Vous voyez? Et donc, et Macron, là, on voit bien aujourd'hui. Nous, notre position, elle a été claire. Ni. Je vous dis honnêtement, c'était ni Macron, ni Le Pen. Pour ces deux raisons. Et on le voit bien aujourd'hui. 4 mois après, Macron, il n'a pas hésité à casser le code du travail, à s'en prendre aux travailleurs, encore une fois, comme il l'avait fait sous le gouvernement Hollande. D'ailleurs, la loi El Khomri, il en est quand même un des... C'est lui qui est à l'origine de ça, avec le MEDEF, quand même. Et toutes ces lois Macron, l'ouverture du dimanche, dans la grande distribution, etc. Et c'est quand même lui qui a quand même aggravé les conditions de travail des gens, enfin des travailleurs. Donc voilà, donc notre position, elle était claire dès le départ. Et d'ailleurs, ça, on a eu des discussions quand même, parce que bon, autour de nous, et c'était un peu compris quand même. Pourquoi notre position, c'était ni Macron et ni Le Pen, parce qu'on sait très bien que de toute façon Macron n'allait pas améliorer la vie des gens, n'allait pas améliorer la vie des travailleurs, et on le voit aujourd'hui la preuve. Donc on est fiers. Et là, je tiens à le dire, parce qu'on passe à la radio. Donc on est fiers de notre position. Voilà, et on est les seuls, et d'ailleurs, on est les seuls à aller dans ce sens-là, parce que je vous dis encore, les partis de gauche, ils ont dit, attention, il y a l'extrême droite qui arrive, il faut voter Macron. C'est un des, voilà, c'est pour tromper encore les travailleurs, on va donner une illusion qu'on peut changer notre sort à travers un vote, etc. Et c'est faux. Donc voilà notre position, et nous, on est fiers de ça, en tout cas.
Alors, en majorité, c'était une position qui a été discutée au sein de notre organisation, hein.
Ah, bien sûr. Oui. Tout est discuté, oui, tout à fait, discuter, rediscuter autour de nous. Nous, on milite quand même au sein du monde du travail, hein. On a des militants un peu partout dans les grosses boîtes. Ça fait discuter, d'ailleurs, même au sein de l'hôpital où je travaille, hein, notre position. Et effectivement, c'était discuté, y compris. Après, les gens, ils ont eu tellement peur de l'épouvantail du FN. Après, voilà, ils ont voté pour Macron. Ils ont voté pour le moins pire.
Vous le regrettez maintenant?
Non.
Rétrospectivement, après ces 4 mois de présidence.
Non, et encore, et je pense que vu Macron, vu les attaques qui menacent le monde du travail, on est encore plus fiers. Voilà, d'avoir. Et pourtant, les pressions, on en a eu un peu de chaque côté, mais on n'a pas cédé à la pression, on ne cédera jamais à la pression. Nous, on est honnêtes et on dit et on prévient les travailleurs. Voilà, qui est votre ami, qui est votre ennemi. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est l'honnêteté, on est fiers de ça, et c'est ce qui nous, d'ailleurs, nous, comment dire, c'est ce qui nous, on a, comment dire, j'arrive pas à trouver les mots, ce qui nous
caractérise.
Qui caractérise, merci.
En tout cas, cette position, nous, on n'a pas appelé voter Macron en prétendant, en laissant croire que ça pourrait être un barrage à Le Pen, aujourd'hui, elle nous est, comment dire, ce qu'on rencontre dans les milieux populaires, c'est que les travailleurs, ils sont extrêmement dégoûtés de Macron. C'était déjà le cas il y a à peine 4 mois, mais maintenant c'est encore plus profond. Et nous, l'inquiétude de la montée du Front National, on la partage. Évidemment, ça nous inquiète, ça nous fait même mal au bide quand on sait que des travailleurs votent pour leur pire ennemi. Et quand on dit, nous, on n'a pas appelé à voter pour Macron. Évidemment, on n'est pas comme toute une partie de la gauche qui a fait ça. Et que, y compris, on explique que Le Pen, c'est notre pire ennemi. Mais même les gens de gauche, les travailleurs qui sont inquiets, on a envie de leur dire que c'est pas avec un bulletin de vote qu'on va empêcher l'extrême droite de monter. Et qu'il faudra retrouver le chemin des mobilisations, des luttes, qu'il faudra qu'on se défende, qu'il y aura que comme ça. Y compris qu'on pourra faire reculer l'extrême droite et toutes leurs idées nauséabondes. Et qu'on pourra faire reculer Macron, le patronat et tout ce qui s'ensuit.
Et je tiens à rajouter qu'en prenant des mesures comme ça, en supprimant des emplois, etc., ça peut qu'élargir le terrain du Front National. Voilà, ça va pas dans le bon sens. Ça peut justement, s'il se passe rien d'ici là, j'espère qu'il y aura des luttes, que les gens y reprennent la conscience de classe quand même qui leur est due. Et s'il se passe rien, dans 5 ans, elle est peut-être là. Parce que là, vraiment, là, on va justement, là, ça va aggraver et donc ça fait un terrain encore pour Le Pen. Voilà.
Bien, nous reprendrons cette discussion dans quelques instants. Pour l'heure, il est temps de faire une première pause musicale. Que nous proposez-vous, chers amis ?
Alors, c'est pas moi qui propose, c'est nos amis de l'Outre-Ouvrière. C'est Chris Feeling Band. Je crois qu'ils seront présents ce week-end.
Ils seront présents, oui, à la fête dimanche, avec notamment Philippe Bruno à l'harmonica.
Alors Philippe Bruno, qui, rappelons-le, était candidat suppléant aux législatives dans la 6e circonscription à Villeurbanne cette année.
Alors, un peu de musique, Chris Feeling Band. Alors, c'était Chris Feeling Band, qui seront présents au Festival de lutte ouvrière ce week-end. Alors, est-ce qu'on peut avoir le programme du Festival de lutte ouvrière ce week-end ?
Eh bien, c'est donc sur le samedi et le dimanche, il y a les 2 jours. Alors le samedi soir, un des spectacles, c'est un spectacle de théâtre. Donc c'est une troupe qui s'appelle le Théâtre du Grabuge. Donc ils jouent une pièce de théâtre qui s'appelle Léo Parfait Nounou. Donc c'est une pièce assez, assez décapante et rigolote sur l'idée d'un ancien camionneur qui décide de se reconvertir en assistant maternel. enfin, ou paternel, je sais pas trop comment dire. Et donc, du coup, en fait, c'est surjouer sur les préjugés sexistes. Donc, c'est une pièce qui est féministe et qui est drôle, etc. Voilà. Autrement, il y aura des spectacles. Il y a Chris Feeling, donc, qui vient chanter. Il y a Hazard, c'est un groupe de musique kabyle. Et puis après, ben, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a un stand de science, par exemple.
Oui, toutes les années, il y a un centre de science qui est très intéressant pour les profanes.
Voilà, avec l'idée de présenter des expériences, des choses, avec pour vulgariser la science, avec l'idée de faire réfléchir et de cultiver en fait les spectateurs qui pourraient venir. Donc là, par exemple, il y a un thème le dimanche dont l'intitulé c'est le clitoris, ce cher inconnu, un petit peu sur l'idée de cet organe du plaisir, et y compris derrière, puisque tout est politique, quel plaisir la société elle va pouvoir laisser aux personnes, et là en l'occurrence aux femmes.
L'excision.
Par exemple.
Alors, est-ce que vous pouvez redonner le lieu, s'il vous plaît ?
Oui, c'est à Saint-Priest, donc c'est la salle Mosaïque qui se trouve au 47-49 rue Astrid Briand, c'est la route d'Arieux. Voilà, donc pour les transports en commun, il y a le C25 qui se prend soit par Élie, soit la Part-Dieu. Et sinon, il y a l'arrêt tram T2, dont l'arrêt c'est Hôtel de Ville Saint-Priest, mais il faut marcher un petit peu, quoi. Donc, si vous venez en voiture, donc en fait, il faut aller en direction de Paris, ensuite vous passez devant Hervy, donc c'est la grande rue qui mène jusqu'à l'entrée de Saint-Priest, et ensuite c'est plus loin sur la droite, il y a un parking, c'est gratuit, etc. Donc, l'entrée. Alors, pour l'entrée, donc c'est 7 euros à l'avance, voilà,
vous pouvez
pour les deux jours, hein,
auprès de nos militants.
Sinon, sur place, c'est 10 euros. Là. Et sinon, il y a des forfaits. C'est-à-dire, il y a un forfait, c'est l'entrée. Parce qu'en fait, si vous voulez, le dimanche, il y aura un banquet. Où on mange très bien. Tout est fait maison. Je vous garantis. Voilà, c'est fait par nous. Parce qu'on part du principe que c'est les travailleurs qui font tout fonctionner dans la société. Je vois pas pourquoi on ferait appel à des traiteurs, etc., etc. Donc, c'est nous qui faisons tout nous-mêmes. Voilà, fait maison. Donc, en fait, avec le banquet, plus l'entrée de la fête, c'est un forfait de 17 euros, si je ne me trompe pas. Voilà.
Le banquet, c'est à quelle heure
Oui, en fait, il y a un petit apéro avant. Voilà, une petite sangria sympa. Voilà. Et ensuite, c'est à partir de midi. Voilà, jusqu'à... Voilà. De toute façon, notre fête réouvre à partir de 11h30. Donc, au moment de l'apéro. Après, il y a le banquet. Et après, Nathalie sera là à 16h pour son allocution.
Bien, revenons maintenant à des sujets moins digestes. C'est le programme d'Emmanuel Macron qui se met en place progressivement. Il a été question de droit social, hein, la loi travail et les bouleversements qu'elle va introduire dans les relations sociales, les relations entre les employeurs et les salariés, sur la stabilité de l'emploi, donc à contrario sur la précarité. Conséquence, d'après vous, c'est l'augmentation de la précarité qui se cache derrière l'appellation flexi-sécurité. La sécurité, c'est vrai que vous avez du mal à l'entrevoir dans l'exposé de ce programme et dans les premières mesures qui ont été communiquées au grand public. On n'a pas parlé aussi d'une catégorie qui est particulièrement visée par le gouvernement actuel, ce sont les retraités. Alors c'est pas dans la loi travail, mais c'est une mesure connexe qui va dans le même sens.
Là, les retraités, c'est sûr que c'est extrêmement révoltant. Quand vous imaginez, ils ont annoncé qu'au-dessus de 1200 euros, ils allaient subir l'augmentation de la CSG. Enfin, voilà, ils vont augmenter la CSG de 1,7 point. Donc, les gens, ils vont perdre, 50, 60, 70, 80 euros. Alors qu'en réalité, 1200 euros, c'est pas les grosses retraites. Et en fait, on voit, alors, cette mesure, elle est vraiment, ils baissent les APL, ils augmentent la CSG. Donc en fait, ils nous prennent de l'argent et en même temps, en mesure symbolique, ils annoncent qu'ils vont baisser l'impôt sur la fortune. Ça, c'est profondément révoltant.
C'est pour relancer l'investissement.
Et oui, il y avait Bruno Le Maire, donc un ancien des Républicains, qui est maintenant dans ce gouvernement gauche-droite là, qui ils sont tous rabibochés pour nous mettre des coups. Il disait oui, il faut libérer les énergies, rassurer les investisseurs. Mais en réalité, on voit bien que rassurer les investisseurs, en réalité, c'est leur permettre de faire plus d'argent. Et l'argent, ils l'investiront pas plus. Donc, toutes ces mesures, c'est des mesures de classe. En fait, l'État organise un gigantesque transfert de richesses des poches des classes populaires vers celui, en fait, y compris de la grande, grande finance. Quand on nous dit que c'est les petites entreprises qui vont y gagner, mais c'est pas vrai. C'est du baratin, de la propagande patronale. Voilà. Dans la loi travail, par exemple, la précarité, la définition du périmètre de l'entreprise pour pouvoir autoriser un plan de licenciement, maintenant, ça sera uniquement la filiale en France. C'est-à-dire, c'était une mesure qui était dans la loi El Khomri. Grâce aux manifestations, on l'avait fait reculer. Ils avaient enlevé cette mesure. Ce qui fait que maintenant, Macron, il réessaye, il la remet. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Michelin, qui a des usines dans toute la planète, qui a des usines aux États-Unis, si la filiale américaine, elle fait des bénéfices, et puis que artificiellement la filiale en France, elle est déficitaire, on pourra justifier de fermer des sites.
Ça signifie, entre autres, que d'un point de vue comptable, et là, je m'adresse aux auditeurs de Radio Pluriel qui ont des connaissances en comptabilité, c'est la négation même du principe de consolidation. C'est-à-dire qu'en comptabilité, quand on présente un bilan consolidé, on compense les pertes et les bénéfices de toutes les composantes de l'entreprise, de toutes les filiales. Là, on renonce donc à faire ce raisonnement et on ne tient compte que de la situation comptable d'un établissement isolé dans la masse de toutes les possessions du groupe.
Ça, c'est un procédé qui est extrêmement classique. Tous les grands groupes en particulier font ça en permanence. Voilà, la Toyota, vous savez, ils ont un site d'assemblage de voitures dans le nord de la France. Ce site est toujours déficitaire, systématiquement. Systématiquement, parce qu'en réalité, l'argent, il paye à la filiale Toyota, à la maison mère, et puis ils rendent artificiellement ce site déficitaire. Et nous, justement, une mesure, je pense quelque chose qu'il faudrait qu'on impose quand le monde du travail sera dans un rapport de force suffisante, c'est que la comptabilité dont vous parliez soit totalement transparente, que les personnes qui travaillent dans les services de comptabilité puissent tout dire. Qu'on impose la transparence totale et exercée par les travailleurs directement, par les employés des services de comptabilité, mais aussi par les ouvriers, les ingénieurs, qui ont le droit de demander des comptes quand même sur le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
On a parlé de la politique, du mouvement de transfert de fonds qui résultait de cette nouvelle politique qui se met en place. Qui consistant à faire remonter vers les actionnaires, vers les capitalistes, des revenus qui sont prélevés sur les classes populaires. Vous reconnaissez, vous approuvez la formule qui vient de chez Mélenchon, par la France Insoumise. Je ne sais pas si c'est lui-même qui en est l'auteur ou un des dirigeants de son organisation. Qui qualifie Emmanuel Macron de Robin des Bois à l'envers. Vous êtes d'accord avec cette formule ?
Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire qu'il prend aux riches, il prend pour donner aux riches. Oui, mais en fait, c'est pas une découverte, en fait. Parce que de toute façon, là, on vit dans une société capitaliste, et là, puisque je travaille à l'hôpital public, voilà, donc, c'est une société capitaliste. Ce qui compte, c'est la rentabilité. C'est à tout prix de faire des profits pour donner aux actionnaires. C'est pas pour remettre, par exemple, tous les profits qui sont faits, quand même, dans la société, c'est grâce aux travailleurs, c'est grâce à l'exploitation des travailleurs accrue. C'est-à-dire qu'on supprime des temps de pause, qu'on nous fait croire qu'attention, l'entreprise va pas très bien, il faut qu'on travaille plus pour être payé moins, comme c'était le cas à Bosch il y a quelques années, et c'est encore le cas à Smart, etc., dans le Nord, etc. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que tout est rentable. Et là, on parle de financiarisation, donc de l'économie. Il y a 10 ans en arrière, quand même, là, oulala, attention, le système bancaire, il s'effondre, oulala, donc tous les États, ils sont allés voler dans les poches, quand même, du monde du travail, des travailleurs, etc., pour sauver les banques, quand même. C'était ça, on nous a fait croire que c'était pour ça. Il n'y avait pas d'autre moyen. Donc, toutes des mesures ont été prises pour...
C'était en 2008, ça.
Oui, ça, il y a 10 ans, en 2008. Et aujourd'hui, ces mêmes banques, je vous dis honnêtement, quand vous voyez, là, les 6 premières banques françaises, à elles-mêmes, elles ont fait 27,8 milliards de, de dollars, bon là c'est en dollars, pour les seules banques françaises. C'est la BNP, c'est la Société Générale et j'en passe. Là, les entreprises du CAC 40, là, elles ont fait quand même l'an dernier, quand même, 76 milliards d'euros de profit. Et là, on nous annonce au premier semestre, c'est 52 milliards de profit. Il y a de l'argent. L'argent, il est là, il est fait sur l'exploitation des travailleurs, sur leurs conditions de travail, etc. Pourquoi Macron, il dit pas, bon, on va prendre sur les profits? Mais personne ne le dit, à part lutte ouvrière. Il faut prendre sur les profits. Il faut prendre là-dessus, sur les actionnaires. C'est quand même eux les parasites de cette société qui, non seulement ils ont même pas honte, et ils ont jamais travaillé de leur vie, et là, sans travailler, sans rien, ils s'enrichissent sur le dos des travailleurs, de ceux qui fabriquent les richesses dans ce pays. Et après, on nous dit, c'est nous les fainéants et c'est nous les parasites? Non, c'est pas nous. Nous, au contraire, nous, on est fiers de nous, ce qu'on est. On est quand même la classe ouvrière. Et nous, on travaille. C'est pour gagner notre pain. La classe ouvrière, elle est large. Et là, je tiens à le dire parce que, on essaie de nous diviser entre ceux qui bossent dans les usines, ceux qui bossent dans les bureaux. En fait, le monde du travail, c'est quoi? C'est un travailleur qui n'exploite personne et qui se sert de sa tête et de ses mains pour vendre sa force de travail. C'est ça, le monde.
Et de ses jambes aussi. Dans le milieu hospitalier, quand on voit les kilomètres qui sont parcourus dans ces couloirs interminables, il faut vraiment avoir une bonne condition physique pour tenir le coup.
Tout à fait. Bon, il nous arrive à faire 17 kilomètres maximum. Mais là, pour revenir aux hôpitaux, là, le cas des hôpitaux, ça, c'est issu de la financiarisation. Encore une fois, je vous ai dit il y a 10 ans. Donc, du coup, il fallait sauver les banques. Donc, du coup, comme l'État se désengage de plus en plus... Hein, l'argent public va pas dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles. Donc du coup, tout l'argent, de l'argent public part dans les entreprises pour embaucher, comme le cas du CICE, etc., etc. Et on voit bien que ça n'embauche pas. Au contraire, ça ferme des usines. Donc du coup, les hôpitaux, faut bien qu'ils se modernisent. Donc comme l'État se désengage, donc ils font des prêts à la banque, donc d'où le service bancaire, voilà. Et donc ils s'endettent. Les hôpitaux sont endettés parce qu'ils font des prêts à la banque. En plus, la banque leur fait un taux usurier quand même. Et donc, pour rembourser les prêts, les intérêts de la banque, eh ben, ça se produit sur le personnel. Donc, en fait, c'est le personnel qui paye, qui rembourse les intérêts, le prêt fait par les hôpitaux aux banques. Et c'est pas à nous de rembourser. C'est pas à nous, c'est pas aux travailleurs. Là, on parle de précarisation. Le nombre de CDD, mais il faut voir comment on les utilise. C'est révoltant. On s'en sert comme des Kleenex, excusez-moi du terme. Et vous savez quoi, maintenant? Vous savez quoi, c'est récent. Dans des services, maintenant, au CDD, on leur promet une stagiarisation. Ils rentrent dans le bureau pour être soi-disant stagiarisés. Et on leur ouvre leur contrat comme ça, sans rien. Ils partent comme ça, on s'en sert comme ça. Et ça, c'est des milliers. C'est des milliers de CDD dans le milieu hospitalier. Et sans ces CDD, l'hôpital ne fonctionne pas. Et on l'est vraiment. Et ça, c'est dû à une politique de précarisation. Qu'on embauche. Il faut embaucher tous les CDD, tous les intérimaires, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, parce qu'il manque des moyens. Et là, vous allez dans un service de soins, honnêtement, il y a plus en plus de patients, mais moins en moins de gens pour s'en occuper. On fait plus, on déshumanise l'hôpital. C'est ça, le fond. Et quand vous interrogez, si je vous assure, allez-y, interrogez le personnel soignant, il y a une déshumanisation de l'hôpital. Maintenant, on doit être rentable. L'hôpital public, c'est la loi du marché, doit être rentable. Si elle n'est pas rentable, si les secteurs sont pas rentables, eh ben, on supprime des postes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est révoltant. C'est révoltant parce qu'on n'a pas des carottes, on n'a pas des patates, c'est des êtres humains qu'on a à notre charge. Et on s'en occupe pas. On fait au mieux pour s'en occuper correctement. Et voilà. Et c'est ça que, donc je me permets, comme aujourd'hui je suis à la radio, et j'essaie de comprendre à la population qui sont des usagers de l'hôpital public et des services publics de manière générale, qui sont concernés quand on va manifester pour demander de la population, c'est pas pour les ennuyer. C'est pour eux aussi. C'est pas que pour nous. C'est pour eux. Parce qu'on va vraiment vers une déshumanisation totale de tout. Et c'est valable aussi dans les écoles. Là, à Vaux-en-Velin, au début du mois, là, le 4 septembre à la rentrée, ils étaient en grève. Ils étaient en grève pourquoi? Parce que, pareil, c'est pour faire des économies. Macron leur a proposé aux enseignants qu'en classe de CP, ils soient 10 élèves, 15 élèves. Mais n'empêche qu'ils ont pris, chez Paul pour habiller Pierre, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont enlevé un dispositif. Le dispositif, c'était quoi? C'était plus de profs que de classes. Il faut bien, pour permettre aux classes de CP d'être moins nombreux, comme il n'y a pas d'argent qui rentre, etc., il faut bien qu'ils prennent ailleurs pour compenser ça. Et du coup, c'est les autres catégories, les CP, les CE1, les CE2 qui sont désavantagés. Et ça, c'est comme par hasard, ça touche toujours les classes des milieux populaires, toujours les réseaux d'éducation prioritaire. Ça touche toujours les mêmes. Dans les quartiers déjà assez difficiles, déjà qui sont, déjà c'est des quartiers déjà qui sont assommés par le chômage, hein, etc. Et maintenant, on leur met aussi, comment dire, on leur permet pas que leurs enfants aient accès à l'éducation et accès correctement aux études. Voilà, c'est ça, on s'en prend toujours aux quartiers populaires, on s'en prend toujours à aux classes populaires pour ça. On s'en prend jamais chez les élites, etc. Et ça, c'est des choix de classe. Pour revenir à Macron, j'y tiens, c'est un choix de classe qu'il fait. Il est ouvertement, c'est pas compliqué, lui, c'est l'homme du capital, c'est l'homme du capital financier. Il l'a dit clairement, c'est un gouvernement bourgeois, on le redit, c'est nécessaire de le redire, dirigé par des bourgeois.
Ni droite, ni gauche.
Voilà, il y a plus, ça veut plus rien dire droite et gauche. Voilà, le monde est divisé en deux catégories, les exploités d'un côté, les exploiteurs de l'autre. Et ça, c'est les gens qui nous gouvernent, aussi bien de la gauche jusqu'à l'extrême droite. De toute façon, ils défendent les capitalistes. Les maîtres de l'économie, c'est les Bolloré, c'est les Bettencourt, c'est ceux-là qui dirigent. Et eux, ils sont à leur service. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous écoutent que, de toute façon, notre seul salut, ça sera pas ni à l'Assemblée nationale ni ailleurs, ça sera dans la rue. Et ils sont en prenant conscience que les travailleurs peuvent changer leur sort. Voilà.
Alors moi, j'avais une question. Vous parliez de lutte de classe. Comment ça se fait que la classe ouvrière soit si fractionnée? Et alors, pour parler de l'extrême-gauche, où on voit il y a le lutte ouvrière, il y a le NPA, il y a Mélenchon qui ratisse aussi de votre côté. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vous entendre et d'être un front uni par rapport à la classe capitaliste qui, elle, est unie?
Alors, pour rebondir, même par rapport à la question de Jean-Luc, quand Mélenchon il dit Macron c'est les Robins des Bois à l'envers, eh ben si on prend la formule au pied de la lettre, ça voudrait dire que Mélenchon il devrait être une sorte de Robin des Bois. Et nous on n'y croit pas. On croit pas qu'il y ait des Robins des Bois. Ça sera pas Mélenchon au gouvernement, premier ministre ou président comme il a dit avec Hamon comme premier ministre, il aurait pas fait Robin des Bois. Et nous on a aucune confiance dans l'État, dans l'appareil d'État et dans la gauche finalement. Et donc ce qui nous sépare de Mélenchon, de la France insoumise, du Front de gauche, de toutes les moutures du nom de la gauche qu'il y a pu y avoir depuis 40, 50 ans, eh ben c'est que nous, on pense pas, on veut pas être des Robins des Bois. Nous, on pense que c'est aux travailleurs eux-mêmes de se défendre, de bâtir un rapport de force. Alors c'est vrai que ça demande, comme vous dites, de s'unir. Ça demande de s'unir. Mais le problème, c'est s'unir pourquoi? Ben nous, on ne croit pas à d'union électorale. Voilà, l'ADN de la gauche, de Mélenchon ou autre, c'est de faire croire, on va tous s'unir, aller au gouvernement et vous verrez. Et ben, en 80, on a vu. Avec Jospin, on a vu. Avec Hollande, mon ennemi c'est la finance, on a vu. Et nous, on est intimement persuadés qu'avec Mélenchon, comme en Grèce par exemple, en ce moment avec Tsipras, et ben ça sera tout vu. Donc évidemment, c'est vrai qu'il faudrait s'unir. Il faudra s'unir dans des luttes, dans des mobilisations, dans des rapports de force. Alors ça, ben, ça voudrait dire des mouvements explosifs, profonds, comme en 68. Et ça, on peut se battre, il faudra se battre comme ça, effectivement, en étant le plus uni possible. Après, ça ne veut pas dire que politiquement, il ne puisse pas y avoir différents partis d'extrême-gauche. Nous, on n'est pas du tout pour le parti unique. On est communiste, mais on a toujours été contre le stalinisme, contre tout ça. Et nos camarades du NPA, ils ne défendent pas exactement la même politique que nous. Et on pense que c'est une richesse. On pense que ça, c'est pas un problème. Parce que quand il y a des manifestations, quand il y a des luttes et tout, on pousse. On va tous dans le même sens. Et c'est une richesse qui est plutôt d'idées, qui est des idées, etc. Par contre, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui manque, c'est un vrai parti pour les travailleurs, un parti qui soit large, qui rassemble, et nous, on essaye de le construire, mais on ne pense pas qu'on arrivera à le construire avec un politicien comme Mélenchon.
Ce qui pourrait augmenter votre audience, votre poids politique dans le paysage français, ce serait peut-être un changement de mode de scrutin, le scrutin majoritaire est très défavorable à l'expression de vos idées. Que pensez-vous de la mise en place d'une proportionnelle? Une proportionnelle qui vous permettrait peut-être de conclure des alliances et d'avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Un groupe, ça veut dire une tribune. Si on additionne ce que reprend le potentiel de lutte ouvrière, du NPA et peut-être, je sais pas, c'est le POI, le Parti ouvrier international. C'est le POI ou POI?
POI,
voilà. Je les connais quand même un peu. On les voit moins depuis quelque temps parce qu'ils sont traversés par des dissensions internes, mais Ils ont un peu la même stratégie que vous, le NPA un peu différent, beaucoup plus positionné, notamment sur des questions sociétales. Au total, ça pourrait peut-être friser les 5%, ce qui avait été atteint, je crois, il y a quelques années.
Bah, Arlette Laguillé avait fait effectivement 5%. On avait fait plusieurs fois des scores comparables. Après, c'est évident que s'il y avait un score, s'il y avait de la proportionnelle, on pourrait avoir des élus, des députés. C'est-à-dire qu'il y aurait des communistes révolutionnaires dans cette assemblée bourgeoise. Qu'il l'a toujours été. Je veux dire, la majorité Macron, c'est des chirurgiens, des chefs d'entreprise, etc. C'est vraiment, en fait, cette classe qui, quand même, profite du travail, vit de la plus-value que sortent les ouvriers, les employés, etc., qui est directement dans l'Assemblée nationale. Et ben, qui est des travailleurs dans l'Assemblée nationale, ça serait évidemment quelque chose de fort utile. Mais nous, on ne concevrait pas ça comme quelque chose qui ferait pression sur le gouvernement. Ça serait comme des sortes d'émissaires d'envoyer des travailleurs dans une institution de la bourgeoisie. Les communistes révolutionnaires, des ouvriers, députés, ça serait, ils relayeraient les luttes, ils relayeraient les mobilisations. Et leur boulot, ça serait ça. Et ça serait d'aider, justement, à la mobilisation, à des grèves, etc. Ça serait pas rentrer dans un jeu de tractation parlementaire et de jeu politicien. Nous, on est totalement étrangers à ce genre de choses, y compris le parti qu'on veut construire. C'est un parti qui n'a aucun lien avec l'appareil d'État, avec le monde de l'argent. Nous, on veut faire un parti des travailleurs, pour les travailleurs. Et ces élus, ils devraient être aussi des travailleurs au service des autres travailleurs.
À propos d'assemblée, nous sommes dans un système de gouvernance avec un pouvoir central. Et puis, depuis le développement des lois de décentralisation, il s'est produit, ou en théorie, un transfert du pouvoir dans certains domaines de Paris, du pouvoir central jacobin, vers les collectivités territoriales à différents niveaux. Et quelle est votre position, je parle de stratégie, vis-à-vis de ce pouvoir local qui, à première vue, est rarement mis en cause dans vos prises de parti, dans vos critiques du système? Un conseil municipal, nous sommes dans l'agglomération lyonnaise. Comment appréhendez-vous cette organisation et toute cette production de règlements? Il y a des enjeux colossaux derrière. Les hospices civils, on sait pas qui les commande. Si vous interpellez un élu médecin, ça m'est arrivé de le faire, un élu de l'agglomération, il dit « Non, c'est pas moi, je suis pas administrateur des hospices civils. Il y a l'agence régionale de santé, mais on sait quand même que les élus sont massivement dans les conseils d'administration des hôpitaux. L'urbanisme est un enjeu colossal. La maîtrise du droit des sols pour permettre à une certaine fraction du capitalisme de faire du profit. On voit avec ce qui se passe à la Part-Dieu. Il y a des phénomènes de concentration qui étaient déjà décrits dans le Capital de Marx et qui sont appliqués à la lettre par les politiques urbaines qui se développent sur l'agglomération lyonnaise. Et moi, j'ai l'impression que vous épargnez ces politiciens locaux dans vos critiques en allant peut-être vers l'essentiel, c'est-à-dire en prenant pour cible principale le pouvoir central.
Comment dire? Nous, évidemment, là, on axe quand même sur les problèmes politiques nationaux, parce que c'est ça qui détermine tout. Mais c'est évident que ça a une déclinaison locale. Quand Wauquiez, par exemple, il décide de supprimer des contrats aidés dans les lycées, ça va exactement dans le même sens que Macron. Et ça, nous, on le dénonce. On le dénonce. Et on a pris position, on écrit dans notre presse, sur notre site internet par exemple, on a toute une rubrique de brèves régionales où on étrille tous ces politiciens et ces bourgeois locaux qui en réalité font exactement la même chose que ce qui se passe à Paris ou même à l'échelle internationale. Les problèmes de logement, etc., en fait, c'est des problèmes aussi de classe, puisque quand il s'agit de construire des immeubles de standing, des choses pour la petite bourgeoisie, voire même des gens très aisés, ou effectivement comme les entreprises pour faire des coûts immobiliers, bah là, les services de l'État, en sens général, ils sont là. Par contre, la politique qu'il faudrait mener pour construire tous les logements qui seraient nécessaires, etc., ben voilà, il y a jamais d'argent. En fait, la décentralisation, ça a été aussi une façon pour l'État de compresser les dépenses. Alors, ce que eux, ils jugent comme dépenses. C'est-à-dire que, à chaque fois, l'État va à transférer des compétences aux collectivités locales en leur donnant pas les moyens. Et là, ça continue. Parce que Macron, quand il supprime des dizaines de milliers d'emplois aidés, eh ben, ça va être autant de collectivités locales et même d'associations qui vont se retrouver dans des difficultés terribles. Combien d'associations vont devoir mettre la clé sous la porte parce que le contrat aidé qui leur permettait de fonctionner a été supprimé? Et c'est pareil dans les écoles primaires. C'est pareil de partout, en fait. C'est systématique. Alors, nous, on a un point de vue sur ça. On pense, par exemple, il y avait eu les élections régionales. Dans les élections régionales, on a vu une ribambelle de bourgeois locaux, c'est-à-dire d'entreprises qui ont une échelle régionale, etc., qui tissent des liens, eh ben, qui avec les politiciens du PS, ou avec Wauquiez, ou avec Collomb, etc. Et c'est un petit peu la même chose que ce qui se passe à la tête de l'appareil d'État avec les grands groupes industriels et bancaires. Ben, nous, ça, on le dénonce. On le dénonce. Y compris, on participe à ces élections pour dire ça, et pour porter la parole ouvrière.
Nous sommes à Lyon dans le fief historique de l'industrie Colomb. Chimique. Ah, non, parlons pas de Colomb, évidemment. Le vrai faux maire de Lyon, c'est pas trop. Il est tellement présent que des fois j'ai du mal, moi, à le déchoir de la qualité de maire quand je parle de Gérard Collomb, je suis très respectueux.
Sa bigoterie lyonnaise semble rattraper parce que sur la PMA, il a quand même dit que c'était pas le sujet d'actualité.
Oui, et il était au vœu des échevins il y a quelques jours.
Semaines,
pour moi, ça reste le maire de Lyon. Voilà, j'assume ma position. Je pourrais éventuellement le démontrer. Bon, je parle de l'industrie chimique. Et de l'industrie pharmaceutique. Il y a des grandes manœuvres en ce moment. Sanofi va être vendu à un autre grand de la chimie. C'était dans le Progrès, ma lecture préférée du matin aujourd'hui. Il y a aussi une stratégie financière des grands groupes qui sont présents et qui sont certainement la fraction du patronat la plus influente sur l'agglomération lyonnaise, voire sur la région. Que pensez-vous de l'attitude des politiciens locaux dans ce jeu de chaises musicales entre grands groupes, entre ces changements d'enseigne, ces mutations, ces fusions, ces transferts de filiales?
Par exemple, pour ce qui est de Laurent Wauquiez, il a déroulé le tapis rouge depuis des années à Merck, dans sa région. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est des subventions, c'est des aides en permanence, ce qui fait que cette filiale française de Merck, c'est la plus rentable du groupe au niveau international. Et c'est pareil à Lyon. Le pôle de compétitivité de Lyon qui tourne avec de l'argent public, avec l'argent de l'université publique, avec des crédits de la région, de la métropole, etc., en fait, profite à ces mêmes grosses entreprises. Même grosses entreprises qui sont en train de licencier. Hein. Sanofi, ils ont supprimé quand même depuis 10 ans quasiment 5000 emplois. Et alors ça, à Marcy-l'Étoile, donc là vraiment dans la région en ce moment, ils sont en train d'appliquer là depuis 2 semaines un plan de compétitivité où ils volent 45 minutes de travail. Non, pardon, pas de travail. Ils imposent 45 minutes de travail aux salariés
sur leur temps de
posté.
Pause.
Et en prolongeant leur journée de travail, sans rien gagner en plus. Donc, notamment, ils déduisent des temps de pause. Donc, en fait, les gens, ils vont travailler 45 minutes de plus. Ils vont perdre 45 minutes de leur vie de famille, de leur vie personnelle, pour que Sanofi engrange encore plus de profits. Hein, Sanofi, depuis plusieurs années, c'est 6 à 7 milliards de bénéfices, quand même. 6 à 7 milliards. Et là, on voit vraiment comment le patronat, il attaque le monde du travail pour augmenter la durée de travail, augmenter la flexibilité, baisser les salaires. Bah, tout ça, il faut qu'on le dénonce. Et les politiciens locaux, ils aident à cette politique, comme les Macron et comme d'autres. Et
alors, une petite question, excuse-moi Jean-Luc, comment vous expliquez que les ouvriers ne se rebellent pas plus par rapport à ce que vous racontez, qu'il n'y ait pas une mobilisation beaucoup plus large? Pourquoi vous faites pas des scores plus importants? Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser tous ces gens?
Alors, en ce qui concerne la mobilisation, bon, on l'a vu le 12 septembre, il y a une petite mobilisation. Il est vrai que les gens, enfin, quand on discute avec le monde du travail, hein, parce qu'on y est, on a une presse, on a des camarades qui militent à Sanofi, dans les hôpitaux, à Airbnb, etc., il y a une démoralisation de la classe ouvrière, elle existe. Mais ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à... Alors, on leur a fait croire pendant plus de 40 ans qu'il fallait bien voter, qu'il y avait des sauveurs suprêmes, et aussi les vrais responsables de la situation, de cette démoralisation, quand même, c'est quand même les responsables, c'est parti qui était soi-disant défendait les intérêts des travailleurs, je pense au PS et surtout au PC, hein, qui ça fait 40 ans on leur dit oh, c'est en votant bien qu'on changera notre sort, et là ça fait 40 ans et on voit bien que ça s'aggrave, leurs conditions de travail s'aggravent, etc. C'est pour ça qu'il faut un parti, nous c'est pour ça ce qu'on leur dit, on est au quotidien avec eux. De toute façon c'est vrai que ces partis-là les ont démoralisés, d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut des militants. Et moi, j'en suis fière d'appartenir à Lutte Ouvrière, hein, voilà, qui justement, c'est un parti non seulement qui milite auprès des travailleurs pour leur dire c'est pas une fin en soi, on a des capacités économiques et politiques, c'est nous qui faisons tout fonctionner la société, etc. Donc on a les moyens, comment dire, par notre force, c'est le rapport de force qui fera la différence. On a les moyens collectifs de changer notre sort. Parce que qu'on travaille à Sanofi, qu'on travaille ailleurs, on a les mêmes problèmes. Et ça, déjà, on insiste là-dessus. Après, effectivement, ce qui manque, c'est justement des militants un peu partout, des militants qui défendent ces intérêts-là, qui défendent le monde du travail sur des bases communistes. Voilà, surtout. Et que de dire, de toute façon, c'est pas une fin en soi. De toute façon, on y arrivera. Que, de toute façon, on est dans un système capitaliste. Le but de ce système capitaliste, et là, vous parlez des sources pharmaceutiques, je fais un petit bond, je vais un peu revenir en arrière. De toute façon, elle est absurde, cette société. Parce que d'un côté, on met les entreprises en concurrence les unes avec les autres, et quand ça les arrange, ils se rachètent entre eux, en fait. C'est absurde. Tout ça pour faire du profit, pour donner de l'argent aux actionnaires, et en dégradant les conditions de travail. Donc, on n'a rien à attendre de cette société-là. On n'a rien à attendre. Il n'y a pas, c'est ni à l'Assemblée nationale que ça se fait, ça se passe. C'est ni en votant, etc. On a bien vu les partis qui défendaient les intérêts des travailleurs, là ils ont démissionné, hein, maintenant il y a eu la fête de l'humanité le week-end dernier, et là le problème de Pierre Laurent, c'était il faut refaire une gauche plurielle, il faut arrêter de donner des illusions aux gens, c'est comme ça que ça les démoralise, et notre salut viendra que dans la rue et collectivement. Et
Nadia, vous n'avez pas cité le rôle des syndicats.
J'allais y venir. Justement. Là, on a vu le rôle des syndicats. Donc on a bien vu, de toute façon, les syndicats, ça fait un moment, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est. Ça fait un moment que les syndicats, ils sont dans l'appareil d'État. Vous voyez bien que là, même si le 12 septembre, c'est à l'initiative de la CGT, elle a quand même négocié, elle a essayé de négocier, elle a quand même fait des propositions. Vous avez Maï qui s'est transformé en Tarzan en disant « on a évité le pire ». Et c'est pas vrai du tout. Et la CFDT qui, comme d'habitude, chougne le de combattre. Il y a ça aussi. Vous avez raison. J'allais y venir. Et c'est là où vient cette démoralisation. C'est pour ça que, quand même, moi j'ai foi en les militants locaux. Voilà, ceux qui militent au quotidien auprès de la classe ouvrière, ceux qui font ce qu'ils peuvent, etc., qui militent, etc., et qui essaient justement de redonner un peu de combativité au sein de cette classe ouvrière.
Très bien, ce sera le mot de la fin. Ça justifie pleinement l'appellation de votre organisation, Lutte Ouvrière. C'est votre credo, c'est votre stratégie de combat politique.
Alors non, juste avant de nous quitter, vous pourrez nous redonner le programme de ce week-end
de samedi.
Donc ce week-end, la fête de Lutte Ouvrière. Donc le samedi 23 à partir de 17h et le dimanche 24 toute la journée. Le dimanche, il y a Nathalie Arthaud qui vient et donc qui fait une allocution à 16h. Il y a beaucoup de choses pour se divertir, manger. Il y a des débats sur la révolution russe. C'est le centenaire de la révolution russe. Un moment où les travailleurs ont relevé la tête et ont pris le pouvoir et ont pris les choses en main. Donc il y aura beaucoup de choses sur ça, des débats, des films, des livres, il y aura beaucoup de présentations de livres, des expositions sur les problèmes qui se posent par exemple aux migrants, sur la France-Afrique, le Cameroun, l'industrie pharmaceutique dont on parlera, et beaucoup aussi de romans et d'animations et de moments de divertissement.
Redonnez l'adresse s'il vous plaît.
Et donc c'est à l'espace Mosaïque, route d'Arieux, tout le monde connaît, à Saint-Priest, juste après Renaud
Trax. Voilà, appelé sur cette section rue Aristide Briand. Merci Cyril, merci Nadia.
Merci à vous.
Et rendez-vous ce week-end.
Merci, au revoir.